fréquences électriques. L'émission métal de Radio Campus Paris. Le métal, c'est maintenant.
Métalleuses et mélomanes de tout poil, bonsoir et bonne année 2015, une année qui commence bien pour Accords Électriques, puisque nous recevons ce soir le groupe Wild Pass à l'occasion de la sortie de leur quatrième album, Disclosure, dont la sortie est prévue le, et je me tourne vers vous s'il y a une sortie de prévue.
2 février
prochain. Mais avant de rentrer dans les profondeurs de Disclosure, Maître Kaysar, bonsoir Maître.
Bonsoir.
Tu nous feras un bref point sur l'actualité de ce début 2015 en synfo, mélo, goth, etc. Iras est là, salut Iras.
Bonsoir.
Dame du métal, malheureusement, est coincée au fond de ce lit avec une maladie d'hiver qui fait des glaires, des trucs pas beaux à voir. On l'embrasse donc, mais à distance, on espère qu'elle nous reviendra en bonne santé le mois prochain. Bref. Accords Électriques entame 2015 en très bonne compagnie et on va même commencer par un petit aperçu de Disclosure de Wild Pass et ça commence maintenant.
Thank you.
On vient d'écouter Petrichor, extrait de Disclosure de Wild Pass dans Accords Électriques, Radio Campus Paris 93.9. Et je me tourne vers nos invités pour leur poser une petite question à propos de cette chanson, qui est le single, premier single, et qui a bénéficié d'un clip. Alors j'ai cru comprendre que c'était Alexis et Pierre, donc bonsoir à tous les deux, qui est à l'origine du scénario, comment dire, un peu hermétique de ce clip. Est-ce que vous pourriez nous en donner deux mots ?
Péremptoire.
Pierre.
Deux mots, ça va être un peu short pour
trois,
ouais, pareil, non. Non, bah écoute, on a voulu le clip à l'image du changement stylistique et rock'n'roll qu'on a voulu dans le groupe et du coup bah voilà quoi, c'est plus représentatif de ce qu'on voulait. Ça représente une histoire qui est un peu moins exposée, on va dire, que dans les clips et dans les musiques qu'on écrivait auparavant. Mais il y en a une. Voilà, donc on vous laisse chercher.
Alexis ?
Ouais, bah, bonne année. Ouais, clairement, l'idée du clip, c'était d'utiliser à mort le symbolisme pour essayer de, sans forcément avoir toute l'histoire et tout le concept qu'on a dans l'album, qu'on essaye de travailler, qu'on essaye de donner, sans forcément donner toutes les clés de la compréhension, essayer de donner plein d'éléments qui peuvent aider une fois qu'on a les paroles, une fois qu'on a acheté le digipack ou ce genre de choses, et il y aura sûrement d'autres clips, de pouvoir ensuite reconstituer un peu quelque chose. Donc en pièces indépendante, c'est un petit peu singulier, je peux comprendre, mais par contre, ouais, je pense que ça va se compléter et que ça va prendre du sens.
Symbole et concept, on y reviendra tout à l'heure, et pour le moment, on va passer à la partie actuelle et Metal News présentée par Kaysar.
Metal News, breaking news from the metal world in January 2015 by Kaysar.
Les plus anciens le connaissent sous le nom du comte Dracula, les plus jeunes sous les traits d'un autre comte tout aussi sombre, celui de Doku. Christopher Lee, et non pas Lu, l'acteur est aussi...
Quoique, il doit manger que ça maintenant. Ouais.
L'acteur est aussi chanteur à 16 heures perdues. Papy Lee, comme on l'appelle dans le milieu, a récemment mis en ligne une vidéo de Noël, qui est en fait un medley de ses différentes vidéos depuis 2012 déjà. Alors si vous ne l'avez pas encore entendu chanter, n'hésitez pas, vous aurez le bonheur de découvrir les hits tels que Jingle Hell ou encore le célèbre My Way, par notre très cher papy qui a maintenant 92 ans, comme on dit, ça picote un petit peu.
Et pendant que Papy Lee est au bord de la tombe, on prend un peu son élan avec Nightwish.
Exactement, Nightwish reviendra dès 2015 avec un tout nouvel élan.
Un élan ?
Alors il ne s'agit pas de l'animal, mais bel et bien du titre du single qui sortira le 13 février prochain. Donc on a hâte d'entendre ce que ça peut donner, en tout cas si on suit le titre, ça peut donner quelque chose d'assez déroutant. Finlande toujours, avec les violoncellistes d'Apocalyptica qui viennent de dévoiler leur prochain album et le premier clip Shadowmaker, où vous pourrez entendre notamment le nouveau chanteur du groupe Frankie Perez, pour qui c'est la première apparition.
Quelque chose un peu plus rock, hein, quand même.
Exactement. Keep of Kalassin avait récemment organisé un concours pour la réalisation de leur pochette pour leur nouvel album à venir, Epistemology. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe a bien choisi son vainqueur, puisque la couverture est particulièrement réussie. Si vous ne l'avez pas encore vue, on vous invite à aller voir la page Facebook du groupe pour voir la pochette. Elle est franchement vraiment pas mal du tout. L'album, lui, sortira le 16 février.
Kara Kangren aussi, qui annonce la prochaine sortie de son album.
Exactement, This Is No Fairy Tale, c'est le nom que Kara Kangren a donné à leur quatrième album. Pour mémoire, le précédent album, sur les critiques qu'on avait pu le faire, c'était un sous-mixage de l'album. Alors on va espérer que ce soit plus le cas pour ce non-conte de fées. En tout cas, l'album sortira, lui, le 23 février 2015 et un clip est déjà disponible avec la chanson There Is No Place Like Home.
Et à noter qu'on retrouve le batteur de Kara Kangren dans un autre groupe de death metal symphonique.
Exactement. Finalement, c'était bien de la faute à Fotis. Qu'est-ce qu'il a fait ? On ne sait pas vraiment. En tout cas, Fotis, le batteur de Septic Flesh, ne fait plus partie du groupe. Aucune information pour le moment. C'est en tout cas Namtar de Kara Kangren qui le remplacera pour les prochains concerts.
Et pour terminer cette première partie, un petit rappel des sorties d'albums.
Exactement. Alors, le 16 janvier, nous pourrons entendre Secret Garden d'Angra, avec le single qui est déjà disponible et que vous avez pu écouter lors de la dernière émission Newborn Me. Les Italiens Dunum avec Vexillum
oui,
avec leur prochain album Unum. Et enfin, les Allemands de Orden Organ avec Ravenhead. Et le 30 janvier, Beyond the Red Mirror de Blind Guardian. Le 30 janvier.
Et bien d'ailleurs, on va s'écouter un extrait de Blind Guardian, c'est Twilight of the Gods.
We'll be right back.
C'était Twilight of the Gods de Blind Guardian sur Radio Campus Paris, dans un corps électrique 93.9, donc ça c'est Radio Campus Paris 93.9. Alors est-ce que c'était le crépuscule de Blind Guardian? On aura la réponse dans quelques semaines. Mais on va terminer ce tour d'actu Kaysar avec juste les quelques dates, et notamment une qui concerne nos camarades de Wild Pass.
Exactement, qui seront au concert au Divan du Monde le 17 janvier, accompagnés de Benighted Soul et d'Adrana.
Tout à fait.
Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le concert?
Eh ben faut venir.
On leur posera une question sur le concert, parce que justement Wild Pass et la scène, c'est quelque chose d'assez singulier. Le 18 janvier, le lendemain.
Exactement, ouais. Le 18 janvier, le lendemain, au club avec Drenite, Fenrir, Fogorn, Lapalainen et Delion. Et le 29 janvier, le concert
Le concert d'Epica à l'Olympia, qui me semble l'Olympia. Presque sold out, ou qui va pas tarder à l'être. Eh bien, merci beaucoup, Kaysar. Il est temps à présent de lever le voile et de retrouver nos invités de Wild Pass. Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, fondé au début des années 2000 par le duo Alexis Garceau au clavier et Olivier Caron à la guitare, Wild Pass a attendu son deuxième album, Non Omnis Moriar, en 2009, pour asseoir son univers et son style, celui d'un métal symphonique puissant et n'hésitant pas à s'enrichir d'éléments musicaux comme la musique électronique. Cette réussite est surtout le résultat d'un line-up solide, dont les 6 membres travaillent en osmose, ce que nous allons peut-être pouvoir confirmer ce soir avec les 5 qui ont accepté notre invitation. Bonsoir à chacun. Donc si vous pouviez vous présenter, on va commencer peut-être par Olivier.
Oui, donc bonsoir, bonne année. Donc c'est Olivier, moi je suis guitariste dans le groupe.
Nicolas.
Bonsoir tout le monde, bonne année. Donc moi c'est Nicolas, je suis bassiste, je chante un petit peu aussi pour accompagner Marjolaine.
On en reparlera tout à l'heure. Mathias.
Donc moi c'est Mathias, guitariste dans le groupe, le deuxième guitariste du coup du groupe.
Merci.
Alexis, compositeur et avec Olivier, auteur et claviériste un petit peu aussi.
Et Pierre.
Et Pierre, batteur du groupe. Voilà.
Et concepteur de scénario de clip tordu. Alors on salue aussi Marjolaine, qui malheureusement n'a pas pu aider nous ce soir. Et on vous avait quitté en 2001 avec l'album Underneath, un concept album mystérieux, très orchestral. 2011, oui pardon. Et qui l'orniait vers le voyage et l'exotisme. Et puis cette année vous nous revenez avec quelque chose de très étrange. Justement ça. On vient d'écouter un tout petit extrait de Concealed, qui est l'intro d'ouverture de Disclosure, un album qui a pas mal surpris au sein de l'équipe, qui a peut-être même divisé, certainement parce que lui-même est un peu divisé dans son esprit. Aussi, j'aimerais que vous reveniez un peu les uns et les autres sur la genèse de cet album, et notamment sur toute l'évolution du groupe et de son esprit créatif depuis Underneath. Olivier, peut-être, Alexis ?
Ouais,
Olivier.
Un moment qu'on s'est demandé, quand il est venu le temps de faire un nouvel album, on s'est demandé comment partir. On a décidé en fait de commencer par essayer de synthétiser dans une chanson tout ce qu'on allait aimer pouvoir amener dans cet album-là. C'était Petrichor, qui a pas mal évolué du coup lors de sa création. On a mis longtemps à trouver la version finale et à lui amener petit à petit tous les éléments qu'on aurait aimé trouver dans un nouvel album. Parce qu'on aime pas redire ce qu'on a déjà dit, puis on essayait de voir ce qui allait nous faire plaisir et entendre et à jouer et à faire vivre pour ce nouvel album. Donc ça a été la base de l'optique de cet album là et puis après du coup on a développé ça petit à petit dans chaque chanson.
Alexis, est-ce que tu veux compléter ce qu'a dit Olivier?
Compléter, non, ça a été très bien synthétisé.
Master de synthèse musicale.
Une chose sur laquelle on pourrait développer un tout petit peu, c'est qu'on a essayé de raconter les choses différemment. C'est dans la narration elle-même, on a essayé de ne pas plus se limiter à des structures, plus penser jamais à couplet, refrain, intro, etc. Ça, on a voulu bannir ça pour essayer de revenir à vraiment ce la manière dont on aimait raconter les choses avant, on collait pas mal à ce qui se faisait. On était très influencé, normal, on l'est toujours, par tout ce qu'on pouvait écouter, tout ce qui se faisait. Et là, on s'est dit qu'on n'avait pas envie de refaire encore un Undernis 2 ou un Anonymous Moriar 2, etc. Ces albums, on les aime beaucoup tels qu'ils sont. Et peut-être que plus tard, on en aura envie. Mais là, on voulait proposer autre chose. Et on s'est dit, maintenant, comment on a envie de raconter les choses. Donc voilà, on s'est clairement laissé aller sur tout ce qu'on aimait à ce moment-là.
Donc moi je suis allé faire un petit tour sur votre site, le nouveau, et j'ai vu que Disclosure, c'était un album concept autour d'une femme internée. Est-ce que c'est vraiment ça ou...
Ouais, entre autres en fait, alors... c'est encore un concept un peu compliqué, mais en fait nous on s'est rendu compte que ça nous aidait beaucoup à composer, à trouver des idées, à s'immerger un peu dans l'univers qu'allait être l'album. Donc en fait c'est une histoire qui a plusieurs niveaux de lecture, donc entre autres on peut la comprendre comme ça, c'est effectivement l'histoire d'une femme, et l'un des niveaux de lecture c'est comment petit à petit elle sombre dans la folie et l'impact que ça va avoir sur sa vie, sur sa relation, etc. Mais il y a d'autres niveaux de lecture un peu plus ou plus philosophiques ou
un peu plus du genre tiens puisque,
genre,
puisque t'en parles.
Ça, on peut voir ça aussi comme une vision de l'artiste et de son rapport avec le monde. J'avoue que c'est un peu loin maintenant, mais il y avait
la bonne promo.
Ouais.
Y a une chose qu'on aime bien faire dans Wild Pass, qu'on a toujours fait jusqu'ici, peut-être un petit peu moins dans Nix, qui était plus un album best-of des compositions qu'on avait à ce moment-là, qu'on essayait de réunir autour d'un thème. Mais sinon, ce qu'on aime bien faire, c'est avoir effectivement un concept qui puisse remercier ceux qui cherchent à aller plus loin dans la lecture de l'album. C'est-à-dire que chaque morceau ne va pas être incompréhensible s'il est pris en dehors. Il va être agréable, il va être sympa, il raconte quelque chose en tant que tel, mais par contre dans un concept, quand on regarde la chanson d'avant, la chanson d'après, tout l'album, le visuel, etc., ben on arrive à une histoire plus complète. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours sur plusieurs niveaux de lecture. Ça nous permet de s'ouvrir à la compréhension de qui veut. Et voilà.
Justement, on a un peu parlé de l'esprit et du concept de Disclosure avec vous à l'instant. Je vous propose d'en écouter un premier extrait, enfin un deuxième, même parce qu'on a écouté Patrick Or tout à l'heure. J'en profite quand même pour dire que, comme je disais, l'esprit de l'album me semble un peu divisé. Peut-être que ça correspond à la schizophrénie du personnage, avec un début très indus, très électro. On a même aussi de la dubstep. Et puis la deuxième qui est beaucoup plus encline au voyage, à l'exotisme, avec des sonorités un peu orientales. On va écouter Ignited. Est-ce que vous voulez le présenter?
Ignited.
Olivier.
Ignited, on la voulait. C'était dans le déroulé du concept de l'album. C'était une histoire qui devait exprimer un minimum de violence, un minimum de confrontation. Donc on la voulait assez brute, directe et déstructurée. Et je pense qu'elle va être pas mal en live, celle-là.
Eh bien, on s'écoute tout de suite Ignited.
Donc Ignited, extrait du prochain album de White Path, Disclosure, et vous êtes toujours dans Accords électriques sur Radio Campus Paris 93.9 pour l'émission spéciale White Path. Alors justement, puisque vous êtes là, et surtout Nicolas, j'en profite pour souligner le fait que dans cet album, on sent qu'il y a plus d'interventions vocales de ta part, pour un chant assez couillu, on va dire, et qui contraste pas mal, mais assez agréablement avec celui de Marjolaine. D'ailleurs, bah, même si elle n'est pas là, j'en profite pour souligner que, enfin, on sent qu'il y a une grosse évolution vocale même de son côté à Marjolaine, et on sent que c'est un album qui est très abouti vocalement parlant, aussi bien sur le chant masculin que sur le chant féminin. Et ça, cette intervention-là, on avait pu en avoir un avant-goût avec un des morceaux d'Underneath. Je crois que c'était Crystallized. Et est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez spécifiquement pousser vous, ou est-ce qu'il y a eu une demande de ce chant-là de la part de fans ou quelque chose comme ça,
Nicolas?
Je ne suis pas certain. En tout cas, pour Crystallize, ça a plu. On nous en a souvent parlé, donc c'était une idée à pousser un peu plus loin. Moi, de mon point de vue, je trouve ça très agréable de chanter. J'adore chanter dans ce groupe, partager avec Marjolaine. Donc, quand ils m'ont proposé ça pour cet album, forcément, c'était quelque chose à mettre en plus, quoi. Après, dans cet album, il y a moins de voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chœur. Enfin, il y a très peu de chœur. Donc, c'est aussi pour mettre les voix solistes en avant. Donc, jouer un peu sur les deux tableaux, entre une voix féminine claire et puis une voix masculine qui, du coup, est un peu plus péchue, pour ajouter un peu cette violence qu'il n'y a pas dans la voix de Marjolaine, quoi. Donc, je sais pas si...
Olivier acquiesce. Vous voulez ajouter autre chose, les garçons? Ouais. Non, ouais. Oui, Pierre.
C'est aussi dû au fait que la composition même de l'album, la méthode de composition même a changé. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire toutes les parties symphoniques en premier, et du coup... évidemment, tout ce qui va suivre, ça va être un chant peut-être plus lyrique, et tout va se rajouter par-dessus. C'est qu'on a d'abord commencé par la partie métal, et du coup, ça a donné lieu à... ça marche comme ça, quoi. Donc, on rajoutait finalement peu de choses, donc moins de chœurs, moins de... peut-être des orchestres beaucoup plus aérés également aussi. Et le chant aussi, du coup, le chant prend forme et...
Alors, on en avait parlé un petit peu avant l'émission, avec notamment Alexis et Olivier. Il y a un morceau qui compte pour vous apparemment dans cet album, c'est Delusion. Est-ce que vous voudriez bien nous le présenter, nous l'expliquer un petit peu en quelques mots,
Alexis?
Delusion, je pense que c'est un des morceaux qui arrive le plus à être la clé de voûte qui peut réunir les fans vraiment acquis qu'on avait avant et un potentiel nouveau public. On essaye de s'ouvrir sans forcément renier ce qu'on a été avant, et je pense que Delusion arrive à réussir ce pari-là, essayer de plaire à toutes les parties. Donc c'est un morceau qu'on aime à mettre en avant pour montrer effectivement pour tous les inquiets qu'on n'a pas abandonné ce qu'on était. On est toujours le même groupe, c'est juste qu'on essaye de se renouveler, on essaye de proposer des choses. On trouve que le métal est assez installé comme type de musique et qu'il a parfois du mal à se renouveler. On sent des périodes où il n'y a pas forcément beaucoup de renouveau dans les carrières des groupes, et nous on s'est dit pourquoi pas, c'est une prise de risque, mais pourquoi pas essayer de changer vraiment notre narration. Et pour le coup, Delusion arrive à faire pas mal le pont entre les deux.
En gros, pas faire comme le Blind Guardian qu'on a écouté il y a quelques instants, quoi.
Et justement, on va confirmer cela, on va écouter Delusion.
Thank you.
On vient de s'écouter Delusion, extrait de Disclosure du prochain album de White Pass dans Accords électriques, Radio Campus Paris 93.9.
Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'artwork, qui est très travaillé comme toujours, hein, comme tous les albums, comme surtout les albums précédents. Simplement là, on sent qu'on tend plus vers une esthétique un petit peu prog. Un peu comme chez Dream Theater, enfin du moins c'est
l'impression que moi j'ai eu en lisant le livret. Il y a des montages qui m'ont peu fait penser à la montre, le réverbère dans l'eau.
Et à côté de ça, oui, c'est vrai que cet artwork là il tranche beaucoup même avec d'autres qu'on peut voir dans d'autres groupes de Metal Sympho, par exemple. Notamment ceux qui font référence au Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas,
Julien qui voyait Minas Morgul dans le grand bâtiment, sorte de château du magicien d'Oz version années 30 ou Metropolis. Enfin voilà, donc cette influence années 30 que vous assumez d'ailleurs dans un petit texte qui est sur le site, hein, il me semble. Mm-hmm. Vous le dites, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, ou trois, ou quatre, ou cinq? Alexis.
Ouais, c'est une volonté globale d'affiner les traits, de montrer une autre image. On a réfléchi dans quelle direction esthétique on pouvait aller, et on a trouvé que faire référence à l'art déco, sans forcément tomber dedans à la Gatsby, mais faire référence, ça nous laissait tout un champ de possibles qui pouvait mélanger effectivement des trucs plus détaillés, qui pouvaient rester très classe et très dessiné, très graphique, et donc cette liberté nous a plu.
On a perdu un sac dans le studio, c'est pas grave.
Et donc oui, on est parti clairement là-dessus. Après, effectivement, on nous parle de beaucoup de références à la Metropolis, à Minas Tirith, ça revient, des clips de Woodkid, La Grande Cité Blanche, elle arrive. On n'y a pas spécialement pensé, c'est juste quelque chose qui est venu comme ça quand on avait les images de ce qui pourrait aller avec la musique. C'était vers ça qu'on voulait diriger, donc on y a été.
Oui, parce que c'est quelque chose de toute façon qui est très fort graphiquement, donc finalement c'est pas mal que ça renvoie les gens à un imaginaire particulier. Ça, il y a une synthèse quelque part. Vous qui venez d'un synfo qui est plutôt peut-être classique avec des influences fantasy, là vous en démarquez, mais en même temps on sent il y a des racines malgré tout.
Alors niveau influence, maintenant peut-être influence musicale, parce qu'on vous demandait, Alexis Olivier, notamment de nous faire part de ce qui vous inspirait dans la musique ces derniers temps, on va dire. Donc on va échanger un petit peu les rôles, et puis je vais vous laisser présenter le premier morceau issu de vos influences, donc qui est
c'est le groupe
qui s'appelle Periphery, qui est un groupe de prog américain. Et dont le prochain album sort début 2015, et cet album s'appelle Juggernaut. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Donc, c'est le morceau Icarus Lives.
Ouais, qui est sur le premier album. Okay, ouais. Et écoute, Periphery, je crois que c'est Mathias qui me l'avait fait écouter
Mathias,
la première fois.
Mathias, vas-y, alors parle-en nous, parce que tu n'as pas beaucoup parlé jusque-là.
Bah, alors, Periphery, moi, c'est un groupe qui m'a pas mal marqué. Au début de l'émission, on parlait du métal qui se renouvelait ou pas. Et l'une des premières fois où j'ai entendu Periphery, c'était waouh, dans le métal, j'ai jamais entendu ça pour le moment. Le son des grattes, les textures qu'ils ont, c'est assez original. On s'éloigne assez des parties de guitare, gros power chord, machin, un peu heavy, etc. Ça groove, ce qui est assez peu le cas dans le métal jusqu'à présent. On avait des gars comme Devin Townsend qui groovaient pas mal, etc. Mais c'était du à part. Et Periphery, c'est un truc, ça groove, ça, c'est pas speed, ça va pas vite, c'est juste lourd, ça groove, et il y a des guitares monstrueuses, une voix monstrueuse, une basse énorme, et du coup au niveau de la prod, moi ça a été un gros gros coup de cœur.
Et bien justement, on va écouter un extrait des Carrie Slides.
Thank you.
Alors ça, c'était un extrait de Icarus Lives de Periphery, qui est extrait de l'EP Icarus, qui est sorti en 2011. Donc, alors ça, c'était pour le côté métal des influences. On sent qu'il y en a une autre qui est un peu évidente chez vous, c'est la musique de film. Avec bon, ce qu'on peut écouter en bed là, le Two Steps from Hell. Et là, encore dans Disclosure, on sent l'influence d'Hans Zimmer, quelque part. Comme et d'ailleurs vous nous en aviez parlé à l'époque où Underneath était sorti. Et bah le morceau qu'on va écouter à présent, c'est bah un groupe dont on a déjà parlé dans Corps Électrique, donc bah, que celui auquel je faisais référence là, donc le duo de compositeurs pour musique de trailer Two Steps from Hell. Et vous avez choisi une composition de Thomas Bergerson qui est extraite de l'album Public Skyworld, qui est sorti en octobre 2012 et qui correspond tout à fait à l'esprit de Disclosure, avec un mélange industriel et orchestral. Donc on s'en écoute un petit bout et on en reparle après. On sent que ça vous influence beaucoup parce qu'on retrouve beaucoup de structures musicales qu'on a chez White Path dans un morceau comme celui-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça,
Alexis?
Avec tout cette frôle, avec les inspirations à la Hans Zimmer, faudrait peut-être qu'on se place par rapport à ça. Il y a beaucoup de détracteurs et de critiques de Hans Zimmer. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'il semble faire une musique un peu plus pauvre, etc. On se situe pas là-dedans et ça ne nous atteint pas du tout. On pense que c'est un grand créatif qui se met en danger très souvent. Il n'arrête pas de se renouveler. Certes, du John Williams, c'est toujours brillantissime, mais parfois, ça s'écoute avec moins de plaisir et peut-être plus d'attention. Et Hans Zimmer a toujours eu au moins cette conscience d'essayer d'aller plus loin et de travailler pour faire avancer la musique de film elle-même. Donc c'est assez dur, je trouve, de le critiquer sur ces points de vue-là. Et les descendants directs de ce style de musique, c'est clairement Thomas Bergerson et Nick Phoenix de Two Steps from Hell. Et Bergerson, ouais, il a une manière d'aborder les couleurs musicales dans laquelle on se retrouve beaucoup.
En écoutant ce morceau-là, honnêtement, je me suis dit c'est un morceau de White Pass. Enfin, en tout cas, de Disclosure, franchement, parce qu'il y a cette montée orchestrale qu'on a un peu sur Council, et puis ensuite il y a cette rupture électro, puis ça part en dubstep aussi. Enfin, tout à fait. Enfin, j'ai tout à fait compris pourquoi vous l'aviez choisi. Hein.
Justement, à propos de dubstep, on va en parler un petit peu avec le morceau suivant que je vais vous laisser présenter. Mais en tout cas, c'est un choix qui apparaît tout à fait justifié quand on a entendu déjà Two Steps from Hell et surtout les morceaux de Disclosure, parce qu'on sent que c'est une influence qui est poussé vraiment en avant par rapport aux autres, à vos albums précédents. Donc allez-y, parlez-nous un peu de votre rapport à la dubstep.
Et donc au groupe Savant, ou plutôt au musicien Savant.
Ouais. Alexander Winter. Donc Savant, ouais, et s'il a été choisi aussi, c'est parce qu'il casse un peu les styles. On parle beaucoup de dubstep parce qu'on voit ça de loin, et quand on n'est pas trop dans la musique électronique, c'est le mot qui revient le plus souvent, mais il ne fait pas vraiment de la dubstep. Mais bon, c'est pas grave, c'est les discussions sur les genres, c'est exactement les mêmes discussions que dans le métal. Mais ce qu'il y a de bien avec Savant, c'est qu'il n'a pas de limite de style. Si à un moment il veut faire un morceau de jazz, il le fera. Si à un moment il veut faire un morceau métal, il le fera. Et il en a fait des qui sont très très proches du métal.
Parce que c'est un métalleux aussi à la base. J'ai vu qu'il a commencé, et pas un norvégien, donc il a fait du black metal. Et après il s'est dit, bon, allez fuck, je vais prendre un ordinateur et je vais faire un petit son électronique.
Il y a de ça. Et puis sur son album qu'il a distribué gratuitement, Overkill, il y a un morceau qui est vraiment très très influencé métal et qui est vraiment très bien. Et on aime ça. C'est cette espèce d'idée que le musicien via un groupe soit enchaîné un style, c'est une idée assez particulière. Si on compare ça par exemple au cinéma ou à l'industrie audiovisuelle, est-ce qu'un groupe serait plus une série, donc qui promet de continuer les épisodes dans la même lignée, ou est-ce qu'un groupe peut être comme un réalisateur de film qui à un moment peut tenter un autre style, et le musicien n'a pas le choix telle que est faite l'industrie musicale actuelle, on est de toute façon dans le mode de la série et on essaye nous de jouer avec, et Savante ça fait partie de ces gens là donc le mettre en avant ici, c'est parce que c'est un grand créatif qu'on respecte énormément, donc c'est un moyen de lui faire un petit clin d'œil. Et puis aussi cette optique de réussir à casser ses propres barrières et acquérir un public qui peut s'y retrouver dans cette liberté.
Et bon, on va s'écouter un extrait de Snake Eyes.
C'était donc un extrait de Snake Eyes de Savant, et ça nous amène à un autre musicien hybride qui est Igor.
Parce que avec bon, 3
s'il y a
R.
3 R, je suppose qu'on les roule à un moment. Donc Igor, de son vrai nom Gauthier Serre. Allez-y, présentez-le-nous. Et est-ce qu'on pourrait dire que, comme pour Savant, on a affaire à quelqu'un d'un petit peu, peut-être un peu taré, si on peut dire entre guillemets.
Un individu riche. Igor, on le connaît, c'est assez rigolo parce qu'on l'a découvert via nos études avec Alexis. On avait fait une formation de production en studio avec un mec qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Work, qui fait un peu le même genre, mais un peu plus death et moins éclectique que Igor.
Phonétiquement, on le sent.
Ouais. Et qui, du coup, Work, dont faisait partie Igor aussi. Donc, du coup, on est allé écouter et on est tombé amoureux de ce style qui est très hybride, finalement assez riche harmoniquement, qui emprunte vachement les musiques classiques, baroques, et en même temps très actuelle, et on porte aussi au breakcore, à des machins comme ça, une production monstrueuse. Donc la mayonnaise prend bien, je trouve, avec ce mec.
Une mayonnaise, oui, on pourrait pas même parler de moutarde à ce niveau d'acidité et d'aigreur. On va s'en écouter un petit peu plus.
C'était donc un extrait assez épique d'Igor, une composition qui s'appelle Unpleasant Sonata, on se demande pourquoi, qui est extraite de l'album Nostril, qui est sorti en 2010. Et ben, c'est sur ces notes un petit peu déroutantes hein, qu'on arrive à la fin de notre émission.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission spéciale White Pass. Voilà, je l'attendais, ce Underneath, extrait de Underneath. Pour terminer, on revient à 4 ans en arrière hein, déjà. Mais le podcast sera par contre lui disponible demain. Et puis dans quelques instants, vous retrouvez Novo Mundo sur Radio Campus Paris. La prochaine émission sera le 8 février, toujours de 21h à 22h sur Radio Campus Paris. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur le site ou sur notre page Facebook et la liker si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis évidemment, écouter, réécouter l'album de White Pass qui sortira donc le 2 février. Encore merci beaucoup à tous les 5 d'être venu nous voir et puis bisous à Marjolaine. Je rappelle que vous serez le 17 février prochain en compagnie de Benighted Soul et d'Adrana sur la scène du Divan du Monde. Janvier, oui, j'ai dit quoi ?
Février,
je suis déjà deux mois en plus. Alors le 17 janvier à partir de 18h sur la scène du Divan du Monde avec Benighted Soul et Adrana. C'est un concert quand même très attendu, je voulais quand même terminer là-dessus parce que vous êtes rares sur scène, il faut le dire, et que vos concerts sont toujours des moments vraiment importants. L'un de vos derniers, c'était en tout cas quand on s'était vu en 2011 au moment d'Underneath, vous aviez joué sur scène avec un clatcher à cordes. Une chorale peut-être aussi. Qu'est-ce que vous me prévoyez pour cette fois-là? Parce que je suppose forcément que vous avez prévu quelque chose.
On est justement en train de travailler dessus là en ce moment, donc c'est en train de se mettre en place. Donc oui, on essaye comme d'habitude d'en faire que chaque concert soit particulier, qu'il apporte quelque chose de différent des autres, quoi. Effectivement, je reviens sur le fait qu'on a été un peu absent de la scène. On a été vachement occupé par cet album-là. Et on va essayer de rectifier le tir cette année. Pour ceux qui aiment bien les lives, normalement ils devraient pouvoir nous voir un peu plus que cette année. Oui, ça va être facile, mais même les années précédentes. Pour essayer de faire vivre cet album qui, je pense, va bien marcher sur scène en plus.
Du coup, on aura surtout l'occasion de voir Nicolas en chant presque lead beaucoup plus fréquemment. Quoi.
Est-ce que vous avez déjà des mises en scène? Il y aura de la vidéo Pas encore, Pierre?
Non, en fait, sans spoiler, ce sera, comme dans l'optique, on l'a déjà dit, de tous les concerts, c'est un concert unique, pas dans la quantité, mais qui sera exceptionnel dans le sens que on va essayer de faire quelque chose de plus chaleureux et plus, intime.
Merci à tous les 5 et puis on espère en tout cas que ce soir-là, le 17 janvier, c'est sûr,
le métal gouvernera le divan du monde.
Et on quitte cette émission avec un dernier morceau que vous avez choisi, ce sont les Islandais d'Arstidir avec le morceau Shades.
The moon flows.
The sound of weeping so soft in the breeze, bustle of falling leaves. Light as many shades, it can last for many days. Heard in many ways, like the voice of